Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Anseron, assisté de Véronique. Diffusé en direct mercredi 18 janvier 2017 de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour sont réalisés par Philippe.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés, que je salue.
Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs.
Alors aujourd'hui dans ce studio, un invité que les auditeurs ont déjà eu l'occasion d'écouter et qui malheureusement se fait assez rare sur les ondes de Radio Courtoisie, je veux parler de Louis-Hubert Rémy, qui est d'ailleurs venu en compagnie de son épouse, mais qui reste discrète aujourd'hui. Et je dis en compagnie de son épouse parce qu'avec elle, il avait signé un ouvrage, La vraie mission de Sainte-Jeanne d'Arc, dont nous avions parlé il y a quelque temps. Alors, Louis-Hubert, vous venez aujourd'hui nous entretenir de plusieurs sujets essentiels. Et l'idée de cette émission, l'idée originale, était de parler de l'actualité de Sainte-Jeanne d'Arc. Et je devrais dire des actualités de Sainte-Jeanne d'Arc. Parce que vous êtes, il se trouve, que la Providence a fait que vous êtes franchement à l'origine d'un événement de l'année 2016 que vous allez nous raconter, nous compter dans ses menus détails.
Bonjour Benoît, merci. Bonjour Véronique et bonjour aux auditeurs. Oui, j'ai été un des personnages qui ont été à l'origine de l'événement le plus important de 2016, le retour de l'anneau de Jeanne. Jeanne, pendant 600 ans, donc la seule relique que nous ayons, bon, il est exact quand même, il faut préciser qu'il y a 4 lettres de Jeanne d'Arc, dont une a provoqué un miracle, hein, et qui a, tout ça s'est raconté par Monsieur Malessène, etc. Mais nous n'avions pratiquement rien de Sainte-Jeanne d'Arc, puisque son corps a été brûlé, le reste jeté dans la Seine, quoi.
Et qu'on n'a pas son épée.
Et on n'a pas son épée, etc. Il y a donc des quantités de choses à... Bien. Et alors, tout d'un coup, en janvier 2016... un ami me téléphone, c'était une amie exactement, qui est amie de Rénal de Secher, qui est à l'origine donc de l'information, me dit que dans le journal Spoutnik, dans la revue Spoutnik sur Internet, on annonce la vente de l'anneau de Jeanne. Cette annonce a été reprise par un journal chinois, tiré à plusieurs centaines de millions d'exemplaires, hein, et qui lui aussi annonce la chose. Et alors, chose très surprenante, rien dans la presse française, rien dans la presse anglaise. Mais dès que j'ai vu cette histoire, j'appelle tout de suite mon ami Roch de Coligny, qui est expert à Drouot, et je dis, Roch, il faut absolument qu'on fasse revenir l'anneau de Jeanne. Il me dit, Louis B, on va tout faire. D'abord, lui appelle le commissaire priseur, donc, à Londres, pour avoir donc des renseignements, et donc on a su tout de suite que c'était bien un anneau du 15e, qu'il y avait de l'or à l'intérieur, quoi, de l'anneau, quoi, comme l'expliquait Jeanne, hein, qu'il y avait bien donc tous les signes annoncés par Jeanne sur l'anneau, et donc, ça avait été fait par des outils du 15e, hein, d'un métal du 15e, tout ça, ça a été expertisé après, et donc il y avait des raisons sérieuses, quoi, que ce soit vraiment l'anneau de Jeanne d'Arc. Bien. Je mets tous mes amis en prière, parce qu'il y a toujours le côté surnaturel, Jeanne d'Arc est complètement surnaturelle, on l'oublie tout le temps, hein, et que donc la France est complètement surnaturelle à cette époque, quoi. Je mets mes amis en prière, on récite tous les soirs, quoi, les litanies de Sainte-Jeanne d'Arc, et 4 jours avant, je dis à Roch, de toute façon, ça montera à 100 000 €. La mise à prix était dans les 30 000, je crois, enfin, au départ, quoi, etc. Je dis, ça montera à 100 000. Mais 4 jours avant, le lundi, puisque la vente a eu lieu le vendredi, donc, fin février, je me dis, ça va monter beaucoup plus. Et je me suis dit, ça va nous échapper. Alors, j'appelle Maître Trémollet de Villers, que j'avais rencontré en 2012 lors de la sortie de notre livre sur la vraie mission de Sainte-Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France. Et je lui dis, Maître, savez-vous que l'anneau de Jeanne est à vendre? Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous me racontez? Etc. On en parle pendant une demi-heure et je lui dis, il y a une seule personne qui peut acheter, c'est Philippe de Villiers. Je lui dis, appelez-le tout de suite parce que c'est dans 4 jours, etc. Il l'appelle, on se remonte le moral, etc. Et Philippe de Villiers, dès le mardi matin, m'appelle en me disant, Monsieur Rémy, est-ce que c'est sérieux? Je lui dis, moi, ça me semble sérieux, quoi, il faut y aller, etc. Je lui dis, mais préparez 500 000 €. Il me dit, quoi? Je lui dis, on ira à 500 000 €. Et en fait, nous sommes arrivés à 500 000 €. 360 000 euros de vente, plus 25% au commissaire priseur, 100 000 de plus, plus les faux frais, on a dépassé les 500 000 €. Et en effet, il n'y avait qu'un homme qui était capable de faire ça, c'était Philippe de Villiers. Mais après, quand l'affaire s'est terminée, je me suis dit, mais... Et que donc, alors, le jeudi, il m'appelle...
Vous résumez, bien sûr.
Je résume, oui, il y aurait tellement de choses à dire, oui, parce que j'ai noté une vingtaine de petits miracles qui n'auraient jamais dû se faire, et qui se sont faits, dont le plus grand après était la fameuse lettre de la reine d'Angleterre, disant, hein, donc au Premier ministre, hein, on ne va pas recommencer une guerre de 100 ans, l'anneau est au puits du fou, il reste au puits du fou. Bien, ce qui fait que, bien... Mais alors, la veille de la vente, Monsieur de Villiers m'appelle à 9h du matin en me disant, Monsieur Rémy, je viens de raccrocher avec Contamine, le grand spécialiste universitaire,
que vous
dit,
aviez d'ailleurs
un peu attaqué.
Oui, un peu attaqué, mais en même temps, vous remettiez la qualité de ses travaux. Enfin, quand on avait
C'est bon.
Mais moi, je m'étais toujours méfié un petit peu de son approche très naturaliste.
Comme toujours, quoi. Voilà.
Enfin, c'est près de l'université. Est devenu l'adversaire de cet anneau.
Voilà. En disant à Philippe, n'achetez pas, c'est un faux.
Oui.
Alors, je lui réponds, Monsieur de Villiers, quelle preuve il a? Il me dit, c'est un anneau du 19e. Je lui dis, ça, c'est sûr que c'est faux.
Il n'est pas en or.
Bien du 15e.
En or.
Bien. Et alors, je lui dis, mon épouse avait acheté pour les archives de Nantes, puisqu'il était très adjoint des archives départementales à Nantes.
Les archives, pas des...
Oui. Donc, avait acheté un papier vendu par Christie comme étant signé Anne de Bretagne. Bon, c'est sûr qu'à Nantes, un document comme ça, on saute dessus. ils l'ont acheté, on est allé à Londres le chercher, et en arrivant chez Christie, mon épouse me dit, c'est pas Anne de Bretagne, c'est Anne de Beaujeu. Et en effet, donc c'était Anne de Beaujeu, ils ont remboursé. Alors j'ai dit à Monsieur de Villiers, si c'est un faux, ils rembourseront. Ah. Ça l'a rassuré. Mais je lui dis, mais nous ferons une troisième chose.
Oui.
Nous demanderons, par les mérites de Jeanne, que Dieu fasse un miracle. Parce que le problème du miracle, c'est très chrétien, c'est très français.
Ah,
bon, c'est pas pour rien que nos églises sont pleines d'ex-voto. On les a supprimées, bien sûr, après le concile, mais c'était pleine d'ex-voto partout.
Oui.
On n'a pas pu les supprimer à la Dorade, à Toulouse, ou à Notre-Dame des Victoires à Paris, parce qu'il aurait fallu faire sauter l'église complètement. Bien. Mais nous vivions normalement avec le miracle. Hein. Le miracle faisait partie de la vie chrétienne.
Absolument. Les sacramentaux.
Et oui. Et vous n'avez bien sûr aucun ex-voto dans un temple protestant,
non,
ou dans une synagogue,
non,
ou dans une mosquée. Bien. Bon. Et je lui dis, on va demander, donc, par les mérites de Jeanne, si Dieu le veut, de faire baiser cet anneau par un de mes amis qui était mourant, un garçon très brillant que j'aimais beaucoup, et demandant, quoi, donc, une guérison complète. Il était d'accord. Mais après, son entourage donc m'a trouvé trop surnaturel, quoi. Moi, je les trouve pas assez surnaturels, et oubliant tous que Jeanne est complètement surnaturelle.
Oui, vous avez dit que, voilà. Un jour, Philippe de Villiers vous a dit, vous êtes trop mystique.
Voilà, absolument. Ouais. Et alors, les choses se sont faites. Le vendredi, la vente a lieu d'une façon très très étonnante. Il y aurait des anecdotes, mais j'ai déjà raconté ça. Vous allez sur Google, vous faites YouTube, vous tapez Louis Rémy, et j'ai deux conférences qui sont, rappellent tous ces détails très, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, hein, qui sont très intéressants. La conférence que j'ai faite le 1er avril 2016 au Puy, et la conférence que je viens de mettre sur internet, Noël 2016, où je donne beaucoup de détails à ce sujet-là, quoi. Bien. Et alors, il m'appelle donc le vendredi vers 17h en me disant, Monsieur Rémy, ça y est, on a gagné, on a pu acheter l'anneau.
Oui.
Je lui dis, Monsieur de Villiers, faut qu'on se voit. Il me dit, tout à fait d'accord, on se donne rendez-vous le mardi suivant chez Maître Trémollet, on se retrouve tous les trois, et avec mon épouse, tous les quatre, hein, nous étions donc quatre dans cette affaire. Et alors, il me fait donc, très gentiment, me remercie, me disant, Monsieur Rémy, sans vous, on n'aurait jamais pu. Je lui dis, mais oui, mais sans Philippe de Villiers et sans son argent, on n'aurait jamais pu, encore moins, quoi, etc. Et mais je lui dis, qu'est-ce que vous allez en faire? Il me dit, on va faire une petite fête, etc. Je lui dis, non. Jeanne d'Arc appartient à toute la France. Et l'histoire de l'anneau de Jeanne d'Arc, maintenant, ça vient l'histoire de l'anneau de la France et de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que c'est l'anneau? C'est l'alliance entre Jeanne, Jésus et Marie. Bien. Et donc, elle était très attachée à son anneau, hein, même plus qu'à son étendard.
En même temps que l'alliance avec la France.
Et maintenant, le retour de l'anneau de Jeanne en France, c'est l'alliance entre la France, Jésus et Marie. Bien. Jeanne n'est pas simplement, ça se bloque pas à Jeanne, c'est pour Jésus et Marie. Et c'est le grand signal, parce que c'est dans cette affaire, il y a une chose très évidente, Jeanne voulait revenir en France. Cette affaire était complètement impossible. Et Jeanne est revenue en France.
Oui.
Et est revenue en France en Vendée. c'est pas rien.
Oui, c'est vrai.
On aurait beaucoup de commentaires à rajouter.
Des signes, oui, oui.
Des signes, absolument, quoi. Oui. Elle est très bien gardée. Elle est dans un lieu éminent où des millions de Français viennent visiter et voir l'anneau de Jeanne, y compris même certains politiques, hein, etc. Et donc, c'est un message pour nous.
Il sert de révélateur.
Eh oui.
Et la dernière, le dernier en date, le dernier politique en date à l'avoir aperçu, à s'être pétrifié, c'est ce que m'a dit Philippe Devilliers lui-même.
Ah oui.
C'est Macron.
Macron.
Vous savez que Macron a tremblé devant cette année.
Ah oui, je sais pas.
Mais n'a pas voulu prendre le moindre engagement.
Oui,
ce qui fait que son destin national n'aura pas du tout le même visage. Évidemment qu'il aurait pu, avoir.
Enfin. Et alors après, en réfléchissant, je me suis dit bon, on était quatre. Le rôle de Monsieur Devilliers est compréhensible. Le rôle de Maître Trémollet de Villers est compréhensible. Ils ont d'ailleurs été très récompensés parce que ça fait connaître le Puy du Fou dans le monde entier. Et donc l'opération qu'il faisait en Angleterre a été un énorme succès suite à tout cela.
Oui.
Maître Trémollet a vendu son livre remarquable d'ailleurs, qui est passionnant. Et d'ailleurs, je souhaite qu'il fasse un second livre sur le procès de réhabilitation. Parce que l'avocat vraiment a des choses à dire que personne d'autre ne voit, quoi. Et sur le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, il a fait donc le procès de condamnation. Il faut qu'il refasse un livre sur le procès de réhabilitation. Mais pourquoi Louis-Bert Rémy? Pourquoi j'ai été mêlé dans cette affaire? Et si j'avais pas été mêlé dans cette affaire, je serais pas là aujourd'hui à en parler. Parce que je suis le seul à connaître le père Hérol. Le père Hérol, donc je viens d'acheter, après toute ma vie rêvée, quoi, tout le procès de canonisation de Jeanne d'Arc a été édité, donc en 6 énormes volumes, hein, j'achète cher, bien sûr, hein, etc. Et on le parle tout le temps du père Hérol. On cite tout le temps le père Hérol.
1828-1931.
Voilà.
L'homme le plus renseigné que je sache au monde sur Jeanne d'Arc, le cardinal Touchet, qui était évêque cardinal
d'Orléans. Et donc, le père Hérol a écrit la vraie Jeanne d'Arc. Hein, et quand on lit ça, bon, tout le monde maintenant parle du père Hérol. Bon, j'ai réussi personnellement à retrouver 27 titres du père Hérol qui sortiront les uns derrière les autres suivant les moyens qu'on nous aurons. Mais il en est un qu'il faut souligner tout de suite, qui est donc disponible, hein, sur mon site des Amis du Christ au Roi de France. Hein. C'est Jeanne d'Arc et l'action française, enquête, avec une lettre du père Hérol, une lettre du chanoine Brett et l'action française Épilis. Bon, c'est une toute petite brochure qui ne vaut que 5 euros, hein, mais qui remet bien les choses en place. Parce que le grand problème entre la vraie Jeanne d'Arc et les autres, c'est que le père Hérol est complètement surnaturel. Et il est tellement surnaturel qu'il est le seul à avoir bien compris la triple donation, hein, dans le commentaire qu'il en fait dans le tourmain de la vraie Jeanne d'Arc. C'est absolument époustouflant, très très étonnant, quoi. Bien. Et
alors vous nous aviez entretenu de ces triples donations, évidemment,
oui.
Et elle renvoie justement à l'importance de cet anneau et de l'alliance qu'il représente. Et vous me disiez, avant qu'on commence cette émission par téléphone, que la question de la triple donation, non seulement on a mis en cause évidemment l'anneau, et vous venez de répondre en disant que l'expertise, hein, avait confirmé que c'était de l'or blanc.
Oui, qu'il y avait de l'or à l'intérieur, de l'or, des traces,
absolument. Il est
recouvert
d'un métal, en tout cas, n'est pas blanc, qui n'est pas jaune.
Enfin,
qui n'est pas...
Absolument, oui. Oui, oui,
et,
oui.
Et puis, vous me disiez, à propos de cette triple donation auquel il renvoie, que certains s'en étaient pris à vous très fortement, en remettant en cause ce que vous avez
dit. Parce qu'il n'y a qu'un seul témoin.
Mais
ce témoin, c'est pas n'importe qui.
Non.
C'est le père Dupuis, dominicain, qui viendra évêque de Cahors. Hein, et donc, il y a deux travaux du père Dondaine que nous avons pu consulter
avec votre épouse,
avec mon épouse à Rome, chez les dominicains, quoi, à la bibliothèque des dominicains à Rome. Je vais faire tout un travail qui est presque fini, redonnant tous les documents prouvant la triple donation. Bien. Le document le plus important étant celui de l'Église, qui, dans la bulle d'ouverture du procès de canonisation de Jeanne d'Arc, écrit « Et sa mission était d'amener Charles à Reims, où Jésus-Christ étant déclaré suprême roi de France, Charles recevrait en ce lieu et place les insignes de la royauté. » Bon, c'est quand même assez
époustouflant.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon.
Et vous avez dit que vous avez écrit pour avoir, aux archives de Romaine, pour avoir un document.
Justement. Un document, oui, absolument. Là, dernièrement, bon, on va sortir tout ça. Je pense qu'il y en a une question d'un mois à peu près, quoi.
Oui.
Suivez ça sur le site des ACRF, hein, et vous aurez tous les renseignements.
Voilà.
Bien. Mais donc, si Jeanne revient en France après 600 ans, je rappelle, où elle était considérée comme une sorcière, hein, c'est que il y a des raisons précises. Nous sommes dans une situation désespérée. Ah, Monsieur Onfray vient de sortir tout un livre pour dire que c'est la fin complète de la civilisation judéo-chrétienne. Bon, lui, il est athée, donc il n'a pas d'espérance. Et nous, nous savons que quand il n'y a plus aucun espoir, il nous reste la vertu d'espérance. Bien. Bon, lui ne peut pas comprendre puisqu'il ne comprend pas Jésus-Christ. Il ne peut pas comprendre les prophéties. Il ne peut pas comprendre les sacrements. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais nous, avec le retour de Jeanne, il faut que nous comprenions certaines choses. La première chose essentielle, j'ai à peu près écouté tout ce qui s'est dit depuis donc un an sur Jeanne d'Arc, à droite, à gauche, les sermons, les etc. Jamais je n'entends dire que Jeanne applique le plan de Dieu. Jeanne a été formée pour obéir à Dieu. Jeanne a été donc éduquée par les voies pour être donc celle qui va appliquer le plan de Dieu. Et Jeanne, c'est pas l'aventure de Jeanne, c'est le plan de Dieu.
Celle qui va restaurer le pacte de Reims.
Absolument. Donc, elle va amener la victoire par l'ordre, la paix et l'union. Et donc, l'ordre, la paix, la seule paix qui peut vraiment exister, c'est la paix de Jésus-Christ, etc. Et elle vient au nom de Jésus-Christ, elle choisit la personne, et en 5 mois, sans armée, sans argent, sans troupes, elle transforme la France dans une nation victorieuse. C'est incompréhensible. Oui, oui. Situation désespérée, il faut lire donc les chroniques de l'époque, en particulier la chronique Morosini, dont le père Hérold dit c'est la chronique la plus sûre, au cardinal Morosini, bien, et où donc la situation est complètement dramatique, où on dit qu'il n'y a pas de solution. Et Jeanne, d'ailleurs, quand elle arrive à Charles, ça mérite quand même que je vous lise ces 2-3 lignes, quoi, etc., quoi. Créée capitaine investie du gouvernement de toute l'armée du dauphin, elle se hâta de promulguer que personne ne fût si hardi que de prendre quoi que ce soit des sujets du prince sans l'avoir payé, et sous la peine de la vie. Ensuite, elle dit, il faut que le dauphin pardonne, et pour apporter bonne paix, qu'il n'y ait aucune vengeance. Sans ça, s'il faisait le contraire, le dauphin et tout le peuple de France seraient irrémédiablement perdus. En faisant ce qui était prescrit, Dieu, par sa miséricorde, donnerait en peu de temps sa bonne grâce et le rendrait maître de tout son pays. Mais ce sont des phrases terribles. Hein? Et donc, Charles obéit. Et Jeanne commence par dire, donc, elle qui est capitaine et investie du gouvernement de toute l'armée du dauphin, dire d'abord des hommes en état de grâce. Parce que ce sont des batailles surnaturelles. Tout ce qui est bataille est donc lié à du problème surnaturel. On a été tué par Maurras en France. Maurras a pollué les intelligences par le naturalisme. Et il faut relire, et en particulier le cardinal Pie, je vais rééditer le livre de Trollet de Prévost, professeur à la faculté catholique de droit à Lille, écrit en 1882, qui explique d'une façon extraordinaire l'enseignement du cardinal Pie et ses œuvres. C'est l'anti-Maurras par excellence. C'est l'homme donc du surnaturel par excellence. Parce que tout est surnaturel. On est complètement pollué qu'on essaye de demander, quoi. On est dans une situation dramatique.
C'est pour ça qu'on en revient à la fameuse réunion, n'est-ce pas, des quatre, si j'ose dire.
Oui.
Qui n'est pas la bande des quatre, heureusement.
Oui.
Mais vous dites très justement que votre rôle, à vous, finalement, c'était de rappeler cet enracinement surnaturel et spirituel de la mission de Jeanne d'Arc. Et vous me dites que il y a quand même quelque chose qui a échappé à vos commensaux lors de cette réunion, c'est justement de profiter de ce retour de l'anneau de Jeanne d'Arc pour rappeler ces vérités à la fois historiques.
Absolument.
Et spirituel à nos contemporains, c'est ça.
Absolument.
Vous trouvez que Maître Trémollet n'a pas insisté suffisamment dans son livre, notamment.
Quand on s'était vu le 20 mars, donc au Puy du Fou, je lui ai dit, Maître, faites-moi parler au mois de mai pour la fête de Jeanne d'Arc sur la triple donation parce que j'ai des choses à dire. Il me serait mis tout à fait d'accord. Bon, 15 jours après, je le relance, pas de réponse, quoi. Donc, bon, c'est comme ça, bien. Mais j'aurais dit quand même quelque chose qui est important. C'est raconté par le père Charles Ménian, docteur en théologie, dans un livre qu'il faut absolument avoir lu, « La souveraineté du peuple est une hérésie ». Bon, vous pouvez trouver ça sur donc le site des ACRF. Bien. Et le père Maignan commence par dire « Nous sommes en présence de deux doctrines. Celle de l'Église, tout pouvoir vient de Dieu. Celle de la Révolution, tout pouvoir vient du peuple. »
Rappelons la devise de Jeanne d'Arc, « Dieu premier servi ».
Dieu premier servi, absolument. Bien. Et alors.
Et d'ailleurs, complétons cela.
Oui.
Les hommes d'armes batailleront, Dieu donnera la victoire. Vous m'avez dit tout à l'heure, attention, non.
Jamais Jeanne d'Arc a dit ça.
Fausse.
Jeanne d'Arc a dit, en nom Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et nous parlons tout à l'heure d'un livre sur Louis XVI, et c'est là la différence qui est entre Jeanne et Louis XVI. Hein, Louis XVI est l'anti-Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est l'anti-Louis XVI. On en parlera dans le détail, quoi.
Oui, bien sûr.
Bien. Et donc, le père Maignan, après avoir posé ces deux principes, qui sont les principes de fonctionnement, pose la question. L'obstacle au salut, ce sont les catholiques qui songent uniquement aux moyens humains, en un péril où Dieu seul peut nous sauver. Or, les moyens humains ne sont pas seulement impuissants à nous sauver, ils hâteront notre ruine. Quels moyens avons-nous humainement de sauver la religion et la France ? Ceux que nous donne la Constitution. Et quels moyens nous donne la Constitution ? Nous donne-t-elle ? Le suffrage universel seulement. C'est-à-dire précisément ce qui perpétue et enracine au cœur de la France le péché mortel de révolution. Quand est-ce qu'on va comprendre ?
C'est admirable.
Voilà. C'est en deux phrases, quoi. Enfin,
oui.
Donc il y a tout est dit, quoi. Alors les gens sont à rechercher, donc à demander dans le vote, dans des candidats que ce n'est pas nous qui choisissons.
Non,
ce sont des candidats présentés par les supérieurs inconnus, par le système financier, etc. Et tout. De demander à ces gens de résoudre le problème de la France. Mais on est en plein délire. Et Jeanne nous prouve.
Mais le drame, Hubert, c'est que ce discours-là que vous tenez,
on ne l'entend jamais.
Non, mais on l'entend
jamais.
On ne peut pas l'entendre à travers les médias.
Absolument.
De toute façon, d'abord,
absolument.
Il y en a peu qui l'ont en tête, hélas, dans leur intelligence.
Oui.
Et en plus de ça, quand bien même l'aurait-il, on n'oserait même pas l'exprimer.
Absolument.
On n'ose même plus l'exprimer.
Absolument.
Parce que vous passez pour un autoritaire, voire un espèce de d'ayatollah du catholicisme.
Et oui. Et puis, quand même, il faut aussi agir que de voter, etc., etc., alors que tout est piégé, quoi, dans le vote. Hein. Bon. Et alors, justement, là, ici, c'est bien que nous intervenions au mois de janvier, 100 jours donc avant les élections. Je connais les Français, je connais nos Gaulois, ils vont tous voter. Mais là, cher Benoît, je vous demande de me réinviter, soit en mai, juin, quand on pourra, pour faire le bilan de
juste
tout ça.
Après.
Juste après. Parce qu'on va voir que ça va être catastrophique. On va voir que ça va être catastrophique. Pire qu'on ne pense.
Ah oui, vous le sentez.
Je me demande même si ça ne veut pas être Mélenchon qui va être élu. Quand on voit tellement de choses qui se passent en ce moment, tout est possible. Bien, on verra, on fera le bilan.
Oui, parce qu'ils sont déjà en train de détruire Fillon.
Absolument, comme ils ont tout détruit, etc. On va avoir des surprises, ça va être époustouflant. Bien, et donc on va tomber dans encore plus de désespoir. Alors arrêtons, faisons ce que Dieu veut. Jeanne nous prouve, donc après une guerre de 100 ans où tout est perdu, où il n'y a plus rien, où même Charles VII est pas sûr d'être le fils de son père, où il n'a aucune troupe, il n'a plus personne contre lui, il a non seulement les Anglais, mais les Bourguignons, les Armagnacs, etc. Il est donc seul contre tous, et Jeanne vient toute seule avec Dieu, tout de suite, tout est résolu. Mais quand est-ce qu'on comprendra que Dieu est tout puissant, y compris en France ?
Vous écoutez Radio Courtoisie, Benoît Mancheron reçoit ce matin Louis-Hubert Rémy, qui nous parle de Jeanne d'Arc, de son anneau, et nous allons bientôt passer à Louis XVI. Une auditrice vous demande... N'avez-vous pas songé à proposer à Philippe de Villiers que l'anneau de Jeanne d'Arc fasse un tour de France ?
On a parlé beaucoup de choses, quoi, oui. Je ne sais pas si ce sera très utile, quoi. Je préfère que les gens aillent au Puy du Fou le voir. Parce que l'anneau de Jeanne, donc, il est très bien protégé. Ils ont fait des choses très, très bien. Hein. Et donc, là, il est à sa place. Parce qu'il y a quand même... toute une chose d'enseignement au Puy du Fou, cette Vendée, etc. Et je pense pas que ça demanderait trop de problèmes de sécurité, etc. Et tout quoi. Oui. Bien. Alors
il y a une autre question d'un auditeur, mais qui demandait comment l'Église avait accueilli cette nouvelle du retour de l'anneau.
Ils s'en foutaient complètement. Bien sûr, ils n'ont rien compris. Et alors bien. Et alors. Quand on s'est vu avec Philippe de Villiers, la première chose que j'ai dit, est-ce que vous connaissez la prophétie de Pie XII ?
Oui. La fameuse prophétie,
de Pilous. Il me dit de quoi ? Il me dit, je ne connais pas ça.
On verra dans quelques instants.
Voilà. Hein? Et donc, ah oui, bien, cette prophétie de Pilous est très importante. Vous allez voir pourquoi. À vous, Véronique.
S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victimes à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi, de la sainte foi, que rien ne peut abattre et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. Du sol généreux de ce jardin de l'Europe qu'est la France, germent les héros de la patrie et de la foi, qui, par amour pour leur mère, si sa défense l'exige, savent batailler, souffrir et mourir, dans la certitude que les lauriers du triomphe ne sauraient jamais manquer à qui accepte de se sacrifier pour une cause grande et juste. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées pour sauver la patrie et sauver la foi.
C'est quand même extraordinaire, quoi. En 1956.
C'était en 56.
56. Oui. Bien, radio message, quoi. Vous avez ça dans le, mon livre. Je l'avais mis dans mon livre sur Jeanne d'Arc et la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc. Et donc, en 1956, il parle de sauver la patrie et sauver la foi. Je vais être assez rapide sur sauver la foi parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est plutôt au clair de l'enseigner. Bien. Nous, nous avons la foi de Jeanne d'Arc. Nous devons avoir la foi de Jeanne d'Arc. Nous devons avoir le catéchisme de Jeanne d'Arc. Pas un catéchisme œcuménique. Un catéchisme catholique. Parce que la religion catholique ne peut pas changer. C'est comme les mathématiques. C'est comme la musique. C'est comme le langage. Quand Dieu crée, c'est définitif. Et ça ne change jamais. Bien. La religion ne peut pas changer. C'est la même religion, donc, depuis la Sainte Vierge, depuis Saint Pierre, depuis Sainte Jeanne d'Arc, depuis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc., depuis Saint Pie X, c'est tout. Bien. Et nous avons les mêmes sacrements que Jeanne d'Arc. Et il faut revenir au sacrement de Jeanne d'Arc. Et ça, c'est sauver la foi. Et Dieu sait si elle est en péril, parce que Dieu sait si, dans la religion conciliaire, il y a des gens tordus, il y a des gens qui ont tout cassé, déformé, hein, ont tout détruit. Hein, ils n'ont pas changé, ils ont détruit, quoi. Et donc, il faut revenir, c'est première, donc, et là, ici, écrit en 1956 par Pie XII. Et deuxième, sauver la patrie. Alors, sauver la patrie, là, ici, on vient de résumer en quelques minutes comment Jeanne a sauvé la patrie. Bon, c'est-à-dire en faisant le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu nous donne, par l'exemple de Jeanne, ce qu'il veut, comment les choses sont possibles. Ça, c'est complètement réel,
c'est
l'histoire de Jeanne.
C'est d'abord le
Sacre. C'est voilà, absolument.
C'est d'abord Reims.
D'abord.
L'étape de
d'abord,
Reims.
D'abord un gouvernant.
Vous qui êtes providentialiste.
Ouais, ouais. D'abord un gouvernant, choisi de Dieu. Oui. Charles VII, t'es bien le fils de Charles VI.
Oui, voilà.
Et Dieu dit Jeanne. Et donc, puisque tu es le fils de Charles VI, va te faire sacré. Parce que le sacre, alors je l'ai expliqué dans une brochure très importante, quoi, qui est, Saint Louis, roi éternel, oui. Où j'explique un
vous
peu dans
d'ailleurs venu en parler.
En parler, quoi, etc. Oui. Une brochure très importante. Oui. Les gens, bon, j'ai eu des échos de gens qui ont compris parce que on va en reparler deux minutes, quoi. Mais pour dire, quoi. Absolument. Et donc, là, ici, la première chose que Jeanne, donc, vient prouver qu'elle est de Dieu à Poitiers, avec le procès de Poitiers, où donc, tous les théologiens signent, elle est bien de Dieu. Ensuite, vient le prouver à Orléans. Et enfin, vient le prouver d'une façon absolument extraordinaire, encore plus importante qu'Orléans, à Pathé. Où là, donc, 2000. Alors, les chroniques sont différentes, hein. Il y a plusieurs, donc, comptes rendus. Il y en a qui parlent de 2000, donc, de 3500 Anglais morts sur le terrain, hein. Et, donc, un ou deux Français, alors où on combat un pour un, quoi. Bien. Et là, auréolé de cette victoire, le 21 juin, Jeanne, donc, demande à Charles VII, qui n'est pas accompagné de la Trémouille, ça s'est passé à Saint-Benoît-sur-Loire, Charles est resté à Sully, la Trémouille est restée à Sully, bon, il se retrouve Jeanne et Charles à Saint-Benoît-sur-Loire, dans l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, hein, et Jeanne lui demande ce qu'elle avait déjà demandé le 7 mars à Chinon, enfin le 9 mars, elle est arrivée le 7, mais elle a eu la rencontre le 9, bien, et donc lui a demandé de donner le royaume à Jésus-Christ. Et Charles le donne. Et là, donc, Jeanne fait écrire, quoi, voici le plus beau chevalier de France, il n'est plus rien. Mais avec ce don extraordinaire, d'une générosité extraordinaire, ce qu'on explique très longuement avec mon épouse, hein, donc dans notre livre, hein, à ce moment-là, Jésus-Christ devient roi de France. Et le dialogue ne s'arrête pas là. C'est que, au nom de Jésus-Christ, Jeanne le rend à Charles. Et alors donc, après, on va à Reims, avec une aventure où tous les conseillers ont déconseillé à Charles d'aller, en disant, mais c'est pas possible, on peut pas passer ni à Auxerre, ni à Troyes. Et en effet, à Troyes, il parle de faire demi-tour.
Oui.
Et alors, heureusement, quelqu'un dit à Jeanne, ça se passe au premier étage, les chroniques expliquent tout ça. Attention, Jeanne, ils sont en train de tout remettre en question. Jeanne monte à trois marches ou quatre marches à la fois, arrive devant le conseil et dit à Charles, mais dis donc, Charles, qu'est-ce qui se passe? Et il lui demande 48 heures. Et alors, tout de suite, elle redescend avec toutes ses troupes, hein, donc à la porte de Troyes, où tous les petites gens étaient donc là ici se féliciter de l'arrivée de Jeanne.
Oui, oui.
Et tous les bourgeois avec une trouille atroce, parce que ils étaient liés par le traité avec les Anglais, avec tout ça. Et Jeanne donc fait un ramdam colossal pendant la nuit, fait mettre des fagots quoi dans les fossés, dit je vais mettre le feu, etc. Et le lendemain, ils amènent les clés. L'église de Troyes. Et donc, la proue à Reims arrive, quoi.
Bien.
Et alors, arrive ce sacre. Mais on ne peut rien comprendre en France si on n'a pas compris le sacre. Quand est-ce que les gens, bon, on a sorti une brochure.
Des livres merveilleux qui sortent en ce moment.
Ah oui, hein. Oui.
À l'iconographie merveilleuse.
Merveilleuse, oui.
Et je dirais à la description
oui.
Purement technique et purement formelle, formaliste du sacre.
Oui.
Évidemment, qui sortent en ce moment. Mais vous dites l'importance spirituelle, évidemment.
Voilà. Ce livre, bon, bien sûr, je l'ai sauté dessus tout de suite, quoi. Il faut l'acheter, il faut l'offrir.
Patrick de Mouy.
Patrick de Mouy. J'ai connu Patrick de Mouy.
Il manque une dimension, évidemment, colossale.
Absolument. C'est la dimension surnaturelle.
Oui.
Cette université mais tue tout.
Puisque c'est une sorte
elle
de
ne comprend pas. Hein, mais oui, elle ne comprend pas les pouvoirs qui sont donnés.
Voilà.
Le pouvoir du sac, ça va être donné d'abord le pouvoir de discernement sur les hommes. Ça, c'est les mêmes pouvoirs que du sacre d'un évêque. Discernement sur les hommes et courage. Ce qui fait que quand on voit le sacre de Louis XVI qui avait été initié maçon avant, eh bien le sac ne fonctionne pas. Quand on voit Charles X, pareil, quoi. Ça mériterait de ressortir. Enfin, je suis en train de préparer ça, quoi. Donc, un livre absolument extraordinaire sur le sac de Charles X que j'ai trouvé une fois dans ma vie, quoi. Hein. Bien. Et où là aussi, on comprend ces contre-exemples que le sacre de Louis XVI et le sacre de Charles X, combien ça ne fonctionne pas. Et donc, le roi, à partir du moment où il est sacré, est protégé dans les sept parties du corps vulnérables. Contre les puissances visibles et invisibles. Hein, je rappelle toujours que Louis XIII a été obligé de prendre un décret royal pour interdire les sorciers dans le Conseil royal. Parce que, bon, il faut expliquer tout ça avec de tous les détails, mais tout ça, ça fonctionne, ça existe, hein, oui. Etc.
Oui.
Et notre époque, Dieu sait si elle est...
Vous croyez aux influences spirituelles,
absolument.
Et comme disait Mitterrand, aux puissances de l'esprit, aux forces de l'esprit.
Oui. Et donc c'est une lutte terrible, parce qu'ils sont deux à vouloir régner. Jésus-Christ et Satan.
Oui.
Et tout est fait actuellement pour le règne de Satan, hein, et tout est fait aussi pour le règne de Jésus-Christ.
Oui.
Le règne de Jésus-Christ n'arrivera que lorsque un sauveur vient sauver, que quand tout est perdu, que lorsque les gens demanderont à Dieu la solution de Dieu.
D'ailleurs, on ne parle plus ni de Satan ni de Jésus-Christ.
Nulle part.
Voilà.
Ah, etc. Et bien sûr, avec le retour d'un autre Jeanne, on a parlé absolument pas de tout ça, quoi. Bien, bon. Et alors, donc.
Mais c'est ça qui vous révolte, finalement.
Ben, c'est.
Dans le bon sens du terme.
Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est la Révolution française? C'est Jésus-Christ hors la loi.
Oui.
Bien. Et donc, Dieu est jaloux de sa gloire.
Oui.
Et donc, c'est lui-même seul qui sortira, nous sortira. Mais il nous sortira quand on aura fait ce qu'il faut. Et le père de Clorivière, donc, nous avons pu consulter avec mon épouse, quoi, les 6000 pages, donc, que le père de Clorivière a écrit sur son traité sur l'Apocalypse, méditation sur l'Apocalypse. Et le père de Clorivière explique que Dieu n'interviendra que quand les gens crieront dans la rue à demander à Dieu la solution de Dieu. C'est pour ça que vous m'appelez, vous fassiez venir au mois de mai. Parce que, on verra qu'il n'y a pas d'autre solution. Et la solution que Dieu veut, il veut régner sur la France et par la France sur le monde. C'est pas Louis-Bert Rémy, ah bah ça.
C'est pas rien. Hein.
C'est pas Louis-Bert Rémy, c'est le cardinal Pie.
Quelle ambition.
C'est Saint Pie X.
Oui.
C'est Monseigneur de Lassus. Je peux donner toutes les références dont ces trois personnages ont parlé, parce qu'ils ont compris. C'est ce que dit aussi le Père Hérol, etc. Le Père Hérol qui a un passage absolument extraordinaire, quoi, que j'ai redécouvert.
Oh bah écoutez, je suis même tenté de demander à Véronique de lire un tout petit passage du Périrol, puisque vous avez eu la bonne idée de réaliser une image,
oui.
Une image un peu votive d'ailleurs.
Oui.
Véronique va nous lire ce qu'il dit justement des devoirs élémentaires et de ce que doit croire et professer le souverain. Alors d'ailleurs, avant qu'elle ne nous lise cela, vous estimez que cela passe forcément par une restauration royale, ou est-ce que vous estimez que ça peut passer par une personne laïque?
Ah, moi je pense d'abord que
bon, élu par Dieu, enfin,
voilà,
je le dis par Dieu.
Actuellement, la situation est telle que c'est ingouvernable. Quelle que soit la personne, quelles que soient les grâces, quels que soient les miracles, c'est ingouvernable. Il faut d'abord que toutes les prophéties d'annonce, les mauvais s'entretuent. Ah. Ce qui veut dire que les catholiques ne soient pas au milieu des combats. D'accord. Ils restent chez eux, ils attendent l'heure de Jeanne d'Arc, ils attendent l'heure de Dieu. Hein, ils vont pas derrière toutes les tentatives qu'on essaie de nous emmener, absolument ridicules, quoi, quelquefois, quoi. Hein. Je vois le... Oh, est-ce que je dis le mot, quoi? Bon, non,
dites allez. Pas de nom.
Non, allez,
n'arrêtons. Pas de nom, mais bon, vous pouvez dire sur quoi monde, ça suffit.
Bon, etc. Bien.
Vous pensez à une candidate particulière?
Oh, non, mais, oh, non, je pense à dans nos milieux, quoi, ce qui se fait, milieux. Etc. Bon, c'est d'accord. Triste, etc. On n'a rien compris, oui, quoi. Oui, oui. Bon. Et alors, quand les mauvais seront entretus entre eux, oui. À ce moment-là, ça sera l'heure de Dieu. Et l'heure de la prière, c'est là où il faut, quoi. C'est comme sous Jeanne d'Arc. Pendant un an, tous les Français sont allés à Rocamadour, y compris Charles, pour prier. Et puis est arrivé le 25 mars, quoi, le grand jubilé du Puy, où donc la mère de Jeanne est présente, où sont présentes mais des milliers de personnes qui venaient de toute l'Europe. Et pendant que Jeanne est à Poitiers, donc pour son procès, et donc Dieu intervient, quoi, etc. Et Dieu interviendra. C'est tellement prophétisé le règne du Sacré-Cœur. Le règne du Sacré-Cœur passe par un lieutenant tenant lieu que oui. Dieu choisit. C'est pas à nous choisir, nous ne sommes pas démocrates.
Alors écoutons ce que dit le Père Hérole.
Allons-y.
Non, nous ne sommes pas démocrates. Le roi de France est dans le dessein de Dieu. Locum tenens regis celorum qui est rex Franciae. Si le lieutenant a droit au respect dû à celui dont il tient la place, il n'a de droit que pour faire observer la loi de celui qu'il remplace. Et toute sa force est là. S'il l'oublie jusqu'à ne pas reconnaître le suzerain, il devient félon. Toute la mission de la pucelle dans sa signification la plus haute est là. Le sang ne donne droit à la lieutenance que lorsqu'il est vivifié par une âme qui en reconnaît le plus essentiel devoir, la dépendance du roi des cieux, l'obligation de régner en son nom et pour lui. Considérer le sang royal d'une manière purement matérielle, c'est ne pas connaître la signification du mot, lui enlever son sens élevé pour le ravaler à une signification animale. Car matériellement considéré, il n'est que cela. Voilà pourquoi, entre l'enseignement de Jeanne et la légitimité professée par l'école gallicane, il y a la distance de la terre au ciel, du christianisme à l'idolâtrie. Le droit divin du sang matériellement considéré est une idolâtrie réprouvée par la foi et la raison. Il en est le renversement. Donc le Père Hérole qui écrit cela. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie et nous entendons ce matin Louis-Hubert Rémy nous parler de Jeanne d'Arc et bientôt, j'imagine, de Louis XVI.
Que oh oui, pas bientôt, ça va être maintenant, malheureusement. Là, je vais être obligé de vous interrompre à propos de Sainte Jeanne d'Arc. Est-ce que vous voulez ajouter un mot à propos de tout ce que nous venons de dire et du rendez-vous un peu manqué? Et pour vous, c'est un rendez-vous manqué ou pas?
Non, parce que je pense que chacun avait sa mission.
Bon, rassuré.
Ils ont fait ce qu'ils devaient faire,
oui.
Et ils l'ont très bien fait.
Bon.
Bien. Bon. Et donc, comme je dis...
Donc l'anneau est là et pour
l'anneau
vous, c'est
est là.
Ça l'événement.
Voilà. C'est l'événement. Voilà.
La bonne nouvelle.
C'est quand même
de 2016.
Étonnant, quoi. Étonnant,
oui.
Quoi.
Que, et vous dites, il n'est pas là par hasard.
Par hasard. Voilà. C'est parce que Jeanne le veut.
Oui. Hein.
Jeanne a tout fait pour.
Et
quoi.
Avec le contre-saint
de la reine
Élisabeth II.
C'est absolument.
Quand même le comble,
non ? Parce qu'en Angleterre, quand ça s'est su, oui. Quoi, ça a été mais un réveil colossal. Personne n'était au courant de la vente. Alors tout le monde s'est remonté carrément au bureau du Premier ministre.
Mais oui, puisqu'il voulait arrêter.
Il voulait faire revenir.
Faire
quoi,
revenir.
Hein, etc. Et tout. Oui. Alors on s'engageait à une bataille de juristes.
Entre nous, s'il avait été faux.
Oui,
à le faire
absolument. C'est un des arguments que Philippe de Villiers a souligné le 21 mars, quoi. Oui, absolument, quoi. Mais et voilà. Alors bon, maintenant, je souhaite quand même qu'un jour, quoi, nous ayons un grand miracle qui permette, hein, donc de signer, quoi, que c'est bien un autre Jeanne pour à l'échelon du monde entier.
Bien sûr.
Bon, comme Dieu voudra, quand ce sera.
Il y a eu plusieurs autres Jeannes, hein. précisons-le.
Oui, trois. Bon, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Non, mais c'est important de le dire parce que sinon,
je vais quand même vous raconter un petit détail très intéressant qui est écrit par un livre que j'ai découvert un seul exemplaire dans une bibliothèque franciscaine. Hilaire de Barenton. Oui, c'est le livre d'Hilaire de Barenton qu'on va éditer, quoi. Jeanne d'Arc franciscaine. Très intéressant, qui montre que Jeanne d'Arc avait été bien reçue au tiers ordre. Il donne des tas d'arguments qui justifient cette position. Et alors, il raconte que l'anneau de Jeanne, qui en effet était l'anneau d'une jeune fille de 16 ans, hein, on a pu prendre la taille et ça correspondait donc exactement à l'âge de Jeanne. Bien, il raconte que cet anneau a été donné à la mère de Jeanne d'Arc, qui elle était du tiers ordre, hein, donc dominicain, et qui logeait quand sainte Colette de Corbie passait du côté de Don Rémy et logeait chez les parents de Jeanne. Et elle était là le jour de la naissance de Jeanne. Et sainte Colette de Corbie, dont on mériterait de connaître en France tout, puisque c'est malheureusement, elle n'est pas connue parce qu'elle n'est pas sainte au calendrier universel, elle est simplement propre de France, mais a fait des tas de miracles, a créé 200 monastères, a été une femme extraordinaire, quoi. Sainte Colette, très liée à Yolande d'Anjou, la belle-mère de Charles VII, très liée à Jeanne d'Arc, elles sont vues très très longuement, quoi, avant que l'histoire de Jeanne après arrive Compiègne et Rouen. Hein, etc. Et sainte Colette de Corbie a donné cet anneau à la mère de Jeanne. Et la mère de Jeanne l'aurait donné donc à Jeanne, quand elle a commencé, à l'âge de 13 ans. Bien, etc. Et donc, tout ça, c'est très intéressant parce que ça demande encore des recherches à faire, quoi. Parce que, en plus, il est dit dans cette brochure que sainte Colette de Corbie l'aurait reçu du ciel. Alors, si elle est reçue du ciel, il y a une signature. Et donc, ça mériterait une analyse précise du métal pour savoir si on est donc dans quelque chose, quoi, donc de naturel ou de surnaturel. Bon, j'ai lu ça. Je me ferai pas guillotiner pour ça, mais c'est une piste qui mériterait d'être approfondie.
Il y aurait tout un livre à écrire
sur toute l'histoire de l'anneau. Bien sûr, oui. Il y a pas mal de choses, quoi, voilà. Bien. Oui. Alors voilà donc un petit peu, on aurait beaucoup de choses à dire. Je vous renvoie donc aux deux autres émissions que j'ai fait sur la question. Je vous dis Google, YouTube, Louis Berrémy et donc conférence Dupuis 1er avril et conférence Noël 2016. Bien.
Et j'aurais aimé d'ailleurs qu'on termine avec ce que disait cette magnifique conférence de Monseigneur Marty, qui était à l'époque évêque de Montauban en 1910, et que Véronique va nous lire, avant que vous nous disiez quelques mots de la réédition que la CRF vient de faire du livre de Louis XVI, ou attribué à Louis XVI, qui s'intitule « Appel de Louis XVI à la nation ».
Jeanne avait en elle tout ce qui fait le caractère vraiment français. Une goutte de sang gaulois, la finesse et la malice. Une goutte de sang franc, la droiture et la loyauté. Une goutte de sang chrétien, l'esprit de dévouement descendu du calvaire. L'esprit de sacrifice qui ne recule devant aucun effort, aucun danger, aucune souffrance quand il s'agit de défendre la justice. Et qui faisait dire à notre premier roi quand on racontait devant lui la passion du Sauveur, « Ah, que n'étais-je là avec mes francs ?»
C'est merveilleux comme cette expression.
C'est une grande fraîcheur.
Oui.
Alors oui, donc un mot de ce qui... Bon, voilà. Quel est le lien que vous pouvez faire entre tout ce dont on parle et votre réédition auquel vous teniez depuis longtemps.
Puisque j'avais commencé
la texte de Louis XVI, ou attribué à Louis XVI, appel à la nation.
Oui, j'en avais fait une préface en 2013, c'est pour dire, j'ai ça sous le coude depuis très longtemps. Oui. Et en effet, il y a un lien avec Jeanne. Louis XVI, c'est l'anti-Jeanne d'Arc. Hein. Louis XVI n'a pas su utiliser la force pour que le royaume fonctionne. C'est une des choses qui est donnée dans le cérémonial du sacre. Hein. On lui donne donc le pouvoir de discernement pour utiliser la force, combattre les ennemis de la chrétienté, hein, encourager les bons, hein, et donc faire le choix des hommes, quoi. Bien. Et tout à l'heure, nous citions la phrase de Jeanne d'Arc. « En nom Dieu, les hommes d'armes bataillons, Dieu donnera la victoire. » Eh bien, Louis XVI n'utilise pas les hommes d'armes, alors qu'il avait avec lui quand même toute la France, quoi. Le problème de la Révolution française, par des gens qui l'ont observé, il suffisait de faire disparaître une centaine d'hommes, et il n'y aurait pas eu de Révolution française. C'est-à-dire, donc, c'est un film, quoi, etc.
Une centaine de manipulateurs.
De manipulateurs, etc. Ennemis, bon, après, il y a des troupes, ils sont 100 000 à peu près, hein. Mais c'est rien par rapport à ce qu'était la France, quoi. J'ai lu, lors de mon troisième infarctus, je suis resté un mois à l'hôpital, et j'ai lu, mais je me retourne vers mon épouse, j'ai oublié le titre, un livre d'un chanoine de Tours en 3 volumes, sur la Révolution française, qui explique d'une façon absolument remarquable, hein, que il y avait une sainteté dans la France, une sainteté de la famille de France, une sainteté des ordres religieux, une sainteté de quantité de familles qui priaient sans arrêt pour que la Révolution s'arrête. Eh bien, quand la Révolution arrive, c'est la justice de Dieu qui passe et ça ne s'arrête pas. Parce que le mal était très profond. Et là, je renvoie à une page extraordinaire, hein, du vénérable Liberman, cité par le cardinal Petra dans sa biographie de Liberman, où il explique le pourquoi, hein, de la volonté de Dieu de châtier la France, hein, qui avait trahi dans ses élites, non seulement au niveau des rois, mais aussi au niveau des évêques. Hein. Bon, j'arrête la parenthèse. Et donc, Louis XVI est un homme qui a pourtant des qualités énormes.
Oui, vous dites qu'il a beaucoup de qualités humaines.
Bien sûr. C'est un homme courageux.
Oui.
C'est un homme sans peur. C'est un homme droit. C'est un homme chrétien.
Et vertueux.
Et chrétien, et vertueux. Oui. Hein, mais d'une vie chrétienne individuelle, hein, qui a oublié, quoi, la vie sociale chrétienne, hein, qui jamais n'en parle, n'appelle la France à prier, hein. On arrêtait du temps de Saint-Louis, on faisait des processions, on faisait des neuvaines, on se mettait en prière comme on faisait du temps de la chrétienté tout le temps, soit pour avoir une naissance, soit pour une guérison, soit pour n'importe quoi. Là, si, ça n'existe plus. Il avait pourtant été averti, prévenu. Hein, page 167, quoi, on raconte tout ça. Bon. Il a été même lucide. Hein, il a dit qu'il explique, page 479, un seul instant a renversé l'édifice de 14 siècles. Et lui, il avait pouvoir, il avait les grâces d'État, il avait donc tout ce qu'il fallait, il avait les troupes qui auraient marché. Et ça, et il ne fait pas. Il y a un grand mystère, quoi, autour de Louis XVI.
Il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui un empêchement, sorte d'empêchement démoniaque. Hein.
Alors, il connaît très bien ses dossiers. Hein,
on a malheureusement pas le temps, cher Louis Hubert, de rentrer dans
tous les détails
du lit, mais finalement ça donnera l'occasion aux auditeurs et auditrices de venir à votre rencontre, puisque vous allez à Duquesne Diffusion signer vos propres livres ce samedi, et que vous présenterez également ce livre donc qui vient d'être réédité, Appel de Louis XVI à la Nation, qui est préfacé par Louis Madelin de l'Académie française.
Avec tous les arguments d'Izorni.
Avec également une longue présentation de Jacques Izorni.
Qui donc démontre que c'est bien Louis XVI, quoi. C'est absolument Louis XVI qui a écrit
ça. De toute façon, quand on connaît les idées de Louis XVI, ses entretiens avec l'avocat Guyon, par exemple, on comprend que on y retrouve malheureusement cette sorte d'infestation des Lumières, qui malheureusement l'a tué, lui aura valu de sombrer.
Je peux encore faire une petite annonce.
Une petite annonce.
Oui, nous allons ressortir aux ACRF. Suivez ça sur notre site. Hein. Vous pouvez acheter en ligne d'ailleurs, hein, les cahiers Jean Vaquier. Bon, j'ai réussi à réunir tous les écrits de Jean Vaquier.
Bien.
Bon, on va faire ça, je pense, avec nos amis de Chiré.
Mais il faudra que vous expliquiez qui est
Jean Vaquier. Il faudra peut-être un jour revenir. On a 11 cahiers à sortir, donc il y a des tas de choses à découvrir.
Bon.
C'est un des grands penseurs, quoi, donc, de notre époque, avec le Marquis de la Franquerie, etc., quoi.
Qui a d'ailleurs signé un livre sur la bataille préliminaire.
Qui a été, diffusé. C'est mon épouse qui a tapé le manuscrit, la bataille préliminaire. Jean Vaquier me l'avait passé. Je suis l'héritier de Jean Vaquier, j'en suis très fier, quoi. Oui, bien sûr, quoi. Et donc, on va ressortir tout ça, quoi. Voilà.
Alors, je vous redonne les deux titres des livres dont nous avons parlé ce matin. Il y a d'abord La vraie mission de Jeanne d'Arc, et qui coûte 25 euros. Le deuxième titre, L'appel de Louis XVI à la Nation, 1793, qui est à 24 euros. On peut se les procurer soit en ligne sur le site des éditions de l'ACRF, c'est-à-dire les Amis du Christ Roi de France. Donc, on le trouve très facilement. On peut payer en ligne. Et si vous n'avez pas Internet, vous pouvez également le commander en envoyant un chèque. Je pense qu'on peut prévoir 4 ou 5 euros de frais de port supplémentaires. 5 euros. L'adresse, donc, édition ACRF, 50 Avenue des Cayolles, C-A-I-2-L-O-L-S, 13 012 Marseille. Il y a un téléphone, c'est le 07 71 84 34 16. Je répète, 07 71 84 34 16. Et donc vous signerez ces livres ce samedi 21 janvier. Alors il s'agit bien de la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, puisqu'il a été annoncé par erreur une autre librairie, et ce sera de 15h à 18h environ.
Ah, 27 avenue Duquesne. Et les quelques dernières minutes vous reviennent, Louis Hubert, parce que je vois que vous lisez attentivement quelque chose devant vous depuis tout à l'heure.
Oui, non, je voudrais surtout que les gens reprennent espoir, quoi.
Ah.
Nous allons bien sûr voir.
Ça fait du bien d'entendre ça.
Des choses épouvantables, mais
surtout sur cette antenne.
Attention, attention. Oui. La vertu d'espérance est une vertu surnaturelle.
Oui.
Et donc Jeanne nous appelle à la conversion. Et donc la première chose qu'il faut, c'est que nous nous convertions comme du temps de Jeanne. Elle fait convertir tout le monde. Comme capitaine, c'est elle qui demande donc de confesser. Ce ne sont même pas les clercs qui demandent ça. C'est elle donc qui nous demande. Je fais cette demande, quoi. Rien. Mais si on veut vraiment une résurrection de la France, il n'y a qu'une seule solution, c'est la France chrétienne. Et c'est elle qui amènera donc le grand miracle prophétisé, quoi, donc par le retour donc du règne du grand monarque, hein, et donc qui fera que tous les problèmes seront solutionnés comme du temps de Jeanne d'Arc. Voilà.
Vous croyez à ce règne du grand malheur?
Ah, bah,
en tout cas,
sûr.
Jean Fakier, il croyait.
Il croyait, nous tous, parce que vous avez une cinquantaine de saints qui ont parlé du règne du grand monarque.
Ah,
c'est pas rien.
Bon. 50 saints.
Une cinquantaine de saints qui ont prophétisé, quoi. Et donc, bien sûr, c'est toujours le pouvoir spirituel qui va parler, qui va appeler le pouvoir temporel. Donc, c'est un grand pape qui appellera le grand monarque, hein, donc. Et nous attendons donc cette fameuse réalisation de la prophétie des deux vénérables, Anna-Maria Taigi et Elisabeth Canori-Mora, qui donc toutes les deux prophétisent que Saint-Pierre et Saint-Paul seront obligés de venir rétablir la papauté.
S'il vous plaît.
Et donc, c'est...
Deux apôtres.
Voilà. Faut que ce soit indiscutable.
Oui, effectivement, faut que ce soit indiscutable. Alors, je précise d'ailleurs qu'on peut se procurer peut-être à la CRF également ces fameuses
images. Oui, j'en ai fait une vingtaine variées avec Monseigneur Gaume, Monseigneur de la Suze, le Cardinal Pie, etc. Donc, elles sont en format carte postale, avec des textes bien choisis sur chacune. Bon, c'est un travail artisanal, quoi, mais c'est quand même une finition très bien, très bonne, hein, etc., qui permettent de transmettre, quoi, de faire voir par à la fois une photo et un texte, quoi, des messages importants, quoi, très importants.
En tout cas, le désespoir, et donc là-dessus, vous rejoignez Maurras, mais pas du tout dans le même
dans
esprit, sur le fait que le désespoir est une sottise absolue.
Absolument.
Voilà. Oui. Merci beaucoup, Louis Hubert, d'être venu nous entretenir. Et je donne rendez-vous donc aux auditeurs et auditrices avec Véronique, et dans 15 jours.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Mancheron, assisté de Véronique. Diffusé en direct mercredi 18 janvier 2017 de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour ont été réalisés par Philippe.